L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Et l'atelier cette semaine commence avec des conseils prodigués par Grégoire et Jean-Marc de l'organisation Nothing to Hide, rien à cacher.
Oui, alors à l'occasion de la Coupe du Monde, un événement sportif majeur, on s'est dit qu'il y avait énormément de journalistes qui allaient partir en Russie, des journalistes français, des journalistes anglais, etc., etc. Et la Russie, quand même, c'est un pays où le métier de journaliste est assez difficile à exercer, et notamment c'est un pays qui a un arsenal de surveillance assez sophistiqué. Donc on s'est dit à cette occasion-là, énormément de journalistes vont partir là-bas, ça serait bien qu'ils ne reviennent pas avec des virus dans leurs ordinateurs, dans leurs smartphones, et qu'ils puissent faire leur travail de manière sécurisé, et on s'est dit on va éditer un petit guide à cette occasion-là, et on a donné des conseils sur ce qu'il faut faire avant de partir là-bas, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire une fois sur place, et ce qu'il faut faire en revenant pour s'assurer de n'avoir aucun problème.
Et là, c'est une occasion de parler des bonnes pratiques, d'un bon comportement, et c'est aussi des conseils que n'importe quel citoyen peut appliquer, ça parle à tout le monde.
Alors, par exemple, donc, ce qu'il faut faire avant de partir, parce que le souci, c'est quand on est journaliste et qu'on va sur place, très souvent, nous, on a beaucoup travaillé avec cette population sur les sujets liés à la sécurité numérique, et souvent, on a des appels sur place où on nous demande « Ah bah, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Le problème, c'est qu'il faut faire des choses avant pour préparer un peu le voyage, et notamment, ce qu'il faut faire avant, c'est essayer de partir avec un ordinateur à peu près vierge, il faut pas partir avec ses photos de vacances, il faut essayer de partir également avec un ordinateur, un téléphone, où on peut vraiment protéger les données, à savoir où c'est chiffré. Dans le cas où on se fait voler son ordi et son téléphone, les gens qui le volent ne peuvent pas récupérer les informations. Et il faut aussi faire un petit peu de ménage sur ses comptes de réseaux sociaux, avoir des mots de passe vraiment solides, donc des phrases de passe, des mots de passe de plus de 12, 13 caractères. Évidemment, pas le même mot de passe pour tous les comptes. Enfin, utiliser des choses vraiment basiques, installer un antivirus et pour éviter justement d'avoir des problèmes, et essayer au moins d'activer ce qu'on appelle le pare-feu, qui est un logiciel qui permet de contrôler ce qui entre et ce qui sort de son ordinateur.
On parle aussi un petit peu des bons comportements à avoir, c'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est qu'en général, à l'étranger, il y a des hôtels à journalistes, c'est-à-dire que voilà, tous les journalistes vont dans le même hôtel. Évidemment, c'est tellement facile de cibler un hôtel. Alors, soit de façon technique, ça veut dire mettre des pièges informatiques sur le wifi de l'hôtel, etc. Ça, c'est une chose. Donc, on dit sortez couvert, c'est-à-dire sortez avec votre VPN. C'est un système pour chiffrer ses communications. La plupart des médias connaissent. Et quand ils ont des ordinateurs maison, c'est installé dessus. Si c'est pas le cas, Nothing to Hide, on en fournit gratuitement aux journalistes. Et aussi, il y a le comportement, c'est-à-dire que on laisse pas traîner son ordi, son téléphone dans sa chambre. Vraiment, on essaie vraiment de tout le temps le prendre avec soi, même au petit-déj, c'est un sac, on le met avec soi, on descend et on laisse pas traîner son ordi.
Son ordi ou son téléphone.
Ou son téléphone, ouais.
Aussi un truc, alors basique, mais ça marche à tous les coups, il faut surtout pas récupérer une clé USB, parce que là, ce qui va se passer pendant la Coupe du Monde, c'est qu'il y a énormément de... va y avoir pas mal de distributions de goodies, de gadgets, et notamment de clés USB, et on ne met pas une clé USB de quelqu'un qu'on ne connaît pas dans son ordinateur, parce que c'est le meilleur moyen d'infecter son ordinateur. Ça, c'est un classique. Et enfin, quand on revient, même si on a mis en place toutes ces précautions, on n'est pas évidemment certain, on n'est jamais certain que notre ordinateur, notre smartphone ne s'est pas fait infecter. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est regarder s'il n'y a pas des comportements un peu anormaux sur son smartphone, à savoir est-ce que la batterie se vide très très vite, est-ce que c'est ce genre de problème. Et si on constate quelque chose de bizarre sur son ordinateur ou sur son smartphone, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à quelqu'un de l'aide, on se fait aider par quelqu'un qui connaît vraiment ces outils-là et qui va examiner ce qui s'est passé, parce qu'on n'est vraiment jamais à l'abri d'avoir un souci, même si on met en place tous les conseils qu'on a, qui sont des conseils simples à mettre en œuvre, et même si on fait tout ça, on n'est vraiment jamais à l'abri.
Oui. C'était donc les conseils de Grégoire Pouget et Jean-Marc Bourguignon à destination des journalistes, blogueuses ou blogueurs se rendant en Russie pour la Coupe du Monde. Grégoire et Jean-Marc, ainsi que tous nos invités du jour, ont choisi de faire du numérique une chance, un outil d'émancipation, de redonner à l'Internet, aux nouvelles technologies, leur souffle peut-être originel, libératoire, au service des droits humains. Au menu de cette émission, trois organisations au nom anglophone. Nothing to Hide, que nous retrouverons dans une trentaine de minutes, Forbidden Stories, enquête interdite en français, et Forensic Architecture. Forensic Architecture est le nom d'une organisation et de la discipline qu'elle a imaginée, l'architecture d'investigation. Vous écoutez l'Atelier des médias, restez avec nous pour entendre ces trois histoires.
rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Mon nom est Eyal Weitzman, professeur d'architecture à Goldsmiths, Université de Londres, où je dirige l'agence d'investigation Forensic Architecture. L'architecture d'investigation, c'est la recherche de preuves architecturales qui permettent de démontrer l'existence de violations des droits humains, de crimes de guerre ou la violence des entreprises. On se donne le nom d'agences de contre-investigation. On ne travaille pas pour la police, on ne travaille jamais pour des États ou des militaires. Ce que l'on fait, c'est que l'on regarde les violations des droits humains par les forces de l'ordre, que ce soit dans des villes européennes, en Amérique du Sud, en Israël, en Palestine, en Irak, en Syrie. Et on regarde d'abord les preuves architectural, ce qui signifie montrer comment la violence laisse des traces dans un environnement construit. Vous savez, actuellement, la plupart des conflits se déroulent dans des villes. Les villes sont les terrains de bataille les plus courants et des civils y sont blessés. Les bâtiments deviennent les lieux où les gens sont blessés, mais ils sont aussi les preuves de ce qui s'est passé. Auparavant, il n'y avait pas vraiment de discipline comme l'architecture d'investigation. On a dû la construire à partir de rien. Donc, c'est composé de choses comme l'archéologie, parce qu'on a besoin de regarder une ruine et de comprendre quelle bombe ou quelle roquette l'a détruite, par exemple. Ça demande de comprendre les médias, parce que très souvent, les seules preuves de la destruction se trouveront sur les smartphones des citoyens présents aux alentours de l'attaque. Donc on a besoin de savoir comment les vidéos fonctionnent, quelles sont leurs métadonnées, comment les localiser, les synchroniser, les vérifier, les minuter. Ensuite, on a besoin de comprendre plein de nouvelles technologies de données, parce qu'une grande partie de l'information que l'on reçoit existe en tant que point de données. Donc c'est un projet très multidisciplinaire qui ressemble à de l'archéologie, mais qui est aussi extrêmement high-tech.
C'est un peu paradoxal parce que l'architecture, on s'attend à ce que ce soit quelque chose qui arrive avant qu'on construise un bâtiment, avant que les gens y vivent, avant qu'ils vivent une guerre ou un combat ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'elle peut apporter une fois qu'elle arrive après pour comprendre la situation ?
C'est vrai qu'en architecture, on emploie beaucoup d'outils, de techniques qui ont été conçues à l'origine pour permettre aux architectes de créer des bâtiments. Mais on a décidé de les détourner, de les rebrancher en quelque sorte pour en faire des techniques d'analyse. Donc au lieu de chercher comment construire un immeuble, on se sert de ces outils pour analyser et faire des expériences sur l'inertie, la structure du bâtiment, les colonnes, le métal, le verre, la façon dont tous ces éléments interagissent. Notre objectif, c'est de comprendre ce qui a détruit ce bâtiment. De la même façon que les architectes modélisent des bâtiments en projet, nous pouvons modéliser plusieurs scénarios de ce qui a pu se passer à un endroit. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'architecture est une profession très numérique et beaucoup de très jeunes architectes ou même des étudiants en architecture possèdent un tel pouvoir informatique sur leurs ordinateurs qu'ils peuvent totalement révolutionner la compréhension et la recherche de ce qu'il s'est passé dans les villes qui subissent des conflits.
Combien de temps ça prend de remodeler ce qui a pu se passer sur un terrain de guerre ou un terrain de crime ?
Ça dépend. Parfois, nos enquêtes vont très vite. Quelquefois, on n'a qu'une journée ou seulement quelques heures pour réfuter l'affirmation d'un État. Par exemple, une fois, les forces aériennes américaines ont bombardé la Syrie, mais le Pentagone a affirmé que ce bombardement avait eu lieu dans un endroit. Or, nous savions que c'était dans une ville totalement différente. Ils ont affirmé avoir bombardé un rassemblement d'Al-Qaïda, et nous avons démontré qu'ils ont bombardé une mosquée civile. Ils ont dit qu'ils avaient tué des militants, et on a démontré qu'en fait, ils ont tué les gens qui vivaient dans et autour de cette mosquée. Et cela a eu lieu très vite. Il y a besoin de répondre à ce message extrêmement rapidement. Dans d'autres cas, on est beaucoup plus lent et méticuleux. Par exemple, pour l'analyse d'une seule journée de la guerre de Gaza de 2014, en l'occurrence le bombardement de Gaza par Israël le 1er août 2014, nous avons eu besoin d'un an pour reconstruire cette unique journée. Donc, ce qui n'a pris qu'une journée à détruire pour les Israéliens nous a demandé un an pour comprendre exactement ce qui s'était passé. Voilà à peu près combien de temps peuvent durer nos investigations.
De juin à décembre 2016, selon la société syriano-américaine, l'hôpital Omar bin Abdulaziz, aussi connu sous le nom de M2, a subi 14 attaques de la part de forces pro-gouvernement. L'hôpital a été détruit depuis l'intérieur et l'extérieur. Des vidéos et des images fixes prises à l'intérieur de l'hôpital et dans ses environs nous ont permis de reconstruire certaines des conséquences de ces attaques. Chaque photographie ne représente qu'une petite partie de l'immeuble, mais les croiser et les assembler nous permet de reconstruire l'architecture de l'hôpital et de localiser les images des bombardements. Grâce à cette modélisation, nous localisons les photographies. Puis, la modélisation devient le moyen qui nous permet de naviguer entre chaque vidéo et chaque photographie des événements.
RFI.
Pour que les auditeurs se rendent bien compte de ce à quoi ça ressemble, est-ce que vous pourriez nous donner un exemple, que ce soit par exemple la contre-enquête autour du Juventa, le bateau allemand qui était dans la mer Méditerranée, ou peut-être le cas Ayotti Napa? Si vous pourriez nous raconter un de ces deux cas, comment vous avez travaillé dessus?
Le cas du Juventa est un bon exemple de notre travail. Un de nos groupes, qui se fait appeler les océanographes d'investigation, a été approché par une ONG allemande. Le bateau de cette ONG, le Juventa, avait été confisqué en mer Méditerranée après avoir réussi un sauvetage de migrants venant de Libye. Pour justifier cette confiscation, les autorités italiennes ont produit une photo et dit qu'elle prouvait que le Juventa avait reconduit les embarcations vides vers les côtes libyennes. Nous devions donc démontrer que cette affirmation était incorrecte. L'image avait une très mauvaise résolution, mais on pouvait y voir des vagues. Nous avons calculé l'orientation de ces vagues, et en la comparant avec des données géographiques, nous avons pu prouver qu'en fait, l'ONG allemande éloigner les embarcations des côtes libyennes. La police italienne a confisqué ce bateau, ce qui a fait que, pendant plusieurs mois, il ne pouvait plus sauver les gens. Or, il y a une énorme crise en Méditerranée. C'était une perte réellement importante, une vraie mise en danger de vie humaine. Et elle avait lieu parce que les autorités italiennes mentaient, ce que nous avons prouvé. Le cas Ayotti Napa était assez différent. Nous avons été approchés par une organisation représentant les parents de 43 étudiants disparus. C'était des étudiants très politisés. Le 2 septembre 2014, ils ont pris des bus pour se rendre à Mexico, manifester et commémorer un autre massacre étudiant datant de 1968. Sur la route, ils se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. En fait, ils ont été attaqués, nous avons pu le démontrer, par la police locale, par des forces de police de villes environnantes, par les militaires, par la police fédérale, tout cela en collaboration avec le crime organisé. Et on les a fait disparaître. Donc, aujourd'hui encore, personne ne sait où sont les corps. Ce que nous avons fait à Forensic Architecture, c'est que nous avons regardé des dizaines de milliers de documents. Nous avons fait de l'extraction de données. Nous avons cherché des relations pour comprendre ce qui s'est passé dans la ville au moment de la disparition. Et cette comparaison d'énormes quantités de données dans la ville nous a permis de montrer la collusion des agences d'État dans cet acte. Et non seulement il y a eu collusion dans cet acte de violence envers les étudiants, mais nous avons démontré que constamment pendant la journée, la police, le procureur et d'autres agences mexicaines cachaient les preuves, falsifiaient les preuves existantes, bref, faisaient tout ce qui était possible pour empêcher la vérité de sortir. Donc c'est en quelque sorte un rapport contre-investigation très classique, où l'on enquête sur l'enquête policière.
J'ai débuté ma carrière dans un hold-up audacieux. Il y avait de la cervelle par terre. Les flics étaient très nerveux. Continuer dans un boxon, dans le slip d'une souris, puis passer dans le ceinturon d'un marchand de paradis qui se fit dézinguer plus tard, mais ça, c'est une autre histoire. C'était un tueur à gages, car on disait ses fins de mois. C'est pas que dans ce boulot-là, on soit souvent en chômage. Surtout que par les temps qui courent, la liberté et l'amour travaillent pour la République. Comité d'action civique. Je me suis multiplié chez un type assez bizarre qui travaillait tard le soir à la plume et au pochoir. Voyager dans des mallettes, dans des fourgons, des tablettes, dans des jeans ou de la soie, en jaguar et en matin. Je suis même passé dans vos poches, grippé par vos doigts crochus, accrochus. J'étais même au PSU, au parti, et à minute, avant de faire les culbutes dans les poches de Lavilliers, ouais, mais ça n'a pas duré. J'ai dormi chez des prélats, entre deux doigts d'arnica, trois bons mots, une caresse, au vicaire et sur les fesses. Je suis le pouvoir d'achat, je suis celui qui décomplexe, je suis le dernier réflexe qu'on n'est pas prêt d'oublier. Essayez de me supprimer dans un coin sur la planète. Il y en a qui font une drôle de tête. Il y en a même qui en sont morts. Aliéné dans le décor. Je suis passé sous les tables. J'ai glissé sur des tapis. Dans des poches confortables, j'ai pris un peu de répit. Dans les mains d'un mercenaire, puis dans la révolution, j'ai participé, mon frère, à des tas de combinaisons. Si tu savais ce que je sais.
L'atelier des médias, tous les samedis sur RFI.
Amnesty International a documenté plus de 100 cas de détention illégale et de torture commises par le BIR depuis 2013. Se fondant sur les recherches menées par Amnesty International, Forensic Architecture a enquêté sur deux de ces centres de détention.
We're not in the business of making friends.
Nous ne sommes pas là pour nous faire des amis. Il y a une espèce de fil rouge qui relie des gens comme Hafez al-Assad, quand on expose une prison secrète en Syrie et qu'il nous accuse d'être une organisation financée par le Qatar. L'État israélien, quand on montre les violations de Tsahal et qu'il nous présente comme une organisation palestinienne, nous appelle Pollywood, le Hollywood palestinien. Quand on travaille contre les États-Unis ou les Russes, c'est pareil. Et même quand on travaille contre le gouvernement allemand, la CDU, le Parti démocrate allemand, nous donne le même genre d'appellation. Donc je pense que toutes ces accusations d'informations falsifiées, quand ils nous les envoient à la figure, c'est en fait qu'ils n'ont rien d'autre à dire.
Votre travail est tel qu'il attire aussi bien donc l'attention d'ONG et de journalistes, on l'a dit, mais aussi de musées d'art contemporain, comme celui de Mexico dont vous venez de parler, ou à Londres aussi, je crois. Et aussi à Paris, du coup, oui, au Bal, en 2015, exact. Du coup, votre travail, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est de l'art? Est-ce que c'est de la recherche? Comment on le classe?
Je n'aime pas que l'on soit considéré rattaché à une seule discipline. Nous ne sommes pas seulement des architectes, nous ne sommes pas seulement des artistes, nous sommes des intellectuels, des universitaires, des architectes, des journalistes, quelques artistes, des réalisateurs, tous engagés pour les droits humains et pour transformer les outils de nos spécialités en outils d'investigation afin de débusquer les crimes d'État, où qu'ils soient. Ce qui est absolument essentiel pour nous, c'est de rendre nos preuves publiques. Et nous le faisons de toutes les façons possibles. Nous les publions dans les médias, nous organisons des commissions de vérité et des tribunaux citoyens. Et pour tout dire, les musées sont parfois de très bons espaces où exposer notre travail. Ils nous donnent accès à beaucoup de gens, des personnes qui viennent pour voir de l'art, qui découvrent notre travail et, je l'espère, comprennent un peu mieux le monde et ses défis.
Et vous disiez tout à l'heure que les architectes aujourd'hui utilisent des logiciels de plus en plus pointus qui vous aident dans votre travail. Est-ce que l'architecture d'investigation aurait pu exister avant Internet et avant le développement des nouvelles technologies actuelles ?
Oui, bien sûr. Mais Internet, les réseaux sociaux, la détection à distance et l'imagerie satellite facilitent beaucoup notre travail. Cela rend aussi possible notre collaboration avec les communautés en détresse, parce qu'on peut discuter, échanger avec elles, former des groupes de travail. Actuellement, la majeure partie de notre activité consiste à regarder les publications sur les réseaux sociaux et à essayer de reconstituer le puzzle. On veut savoir où et quand cette vidéo a été prise. Qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce qu'elle montre un crime? Commis par qui? Est-ce qu'on peut le vérifier? Et cela nous permet de rendre certaines violations publiques. Le bombardement américain d'une mosquée, le bombardement syrien d'un hôpital, le bombardement israélien de quartiers habités par des civils ou encore des prisons secrètes où l'on pratique la torture.
Eyal Weizman, directeur de Forensic Architecture, était interrogé par Mathilde Saliou de l'Atelier des médias. Aujourd'hui, dans l'atelier, nous donnons la parole à des individus qui ont choisi de tirer le meilleur des possibles d'Internet et des nouvelles technologies.
Ils écoutent la musique avec un téléphone. Ils parlent dans la rue avec un téléphone. Ils se photographient avec un téléphone. Et même ils se dirigent avec un téléphone. Et moi j'ai plus de batterie et je sais pas où je suis.
Vous êtes sur RFI, vous écoutez l'atelier des médias, la technologie au service des droits humains, c'est le thème de notre émission aujourd'hui. Laurent Richard est à l'origine du projet Forbidden Stories, des enquêtes interdites.
Je suis journaliste d'investigation depuis environ 17-18 ans. Je réalise des longs formats, essentiellement pour la télévision publique, des longs formats d'enquête, des documentaires qui durent plus d'une heure en général et sur lesquels je passe plus d'une année à enquêter, pour lesquels j'ai beaucoup voyagé et je me suis souvent retrouvé dans cette situation du journaliste qui se rend dans un pays où il est extrêmement dangereux d'être journaliste, voire interdit d'être journaliste. Par exemple, je suis allé en Azerbaïdjan dans le cadre d'un cache investigation qui s'appelait « Mon président est en voyage d'affaires ». J'avais suivi le président Hollande dans des pays qui sont des dictatures, comme l'Azerbaïdjan et le Kazakhstan, et j'avais enquêté sur place sur des faits de corruption. Cette enquête-là m'a valu d'être arrêté, mais parce que j'étais français, je n'ai été arrêté que quelques heures. Et puis finalement, sous la pression de l'Élysée, j'ai pu être renvoyé en France et j'ai pas eu trop de soucis, sauf une petite plainte de l'État d'Azerbaïdjan contre moi pour diffamation. Mais pour cette même enquête sur des faits de corruption, pour cette même enquête sur le vol organisé par le clan au pouvoir en Azerbaïdjan au détriment des populations, pour ce type d'enquête-là, des journalistes en Azerbaïdjan sont arrêtés et croupissent en prison. C'est dans ce genre de situation-là que je me suis dit, mais nous, journalistes de Paris, de New York et d'ailleurs, là où la liberté de la presse est a priori respectée, on peut faire quelque chose. On doit faire quelque chose, en fait, pour que le journalisme collaboratif prenne tout son sens et puisse justement servir là où il y a moins de liberté de la presse. Donc ce type d'expérience-là m'a convaincu de la nécessité de créer une plateforme pour poursuivre et terminer les enquêtes que d'autres ne peuvent pas terminer, parce qu'ils ont été violemment censurés. Et puis un événement plus personnel qui est survenu au début du mois de janvier 2015, le 7 janvier 2015, à Paris. Il y a eu, comme chacun sait, l'attaque organisée contre les journalistes de Charlie Hebdo. Et je travaille à Première Ligne, qui est une société de production, et nos voisins de bureau étaient les gens de Charlie Hebdo. Et donc on partageait les mêmes locaux. Et ce jour-là, je suis arrivé 1 à 2 minutes après le départ des terroristes de l'immeuble. Ils avaient déjà abattu beaucoup de personnes dans la rédaction, dans la petite rédaction de Charlie Hebdo, qui était face à notre porte. Et je suis arrivé parmi les premiers dans la salle de rédaction de Charlie, et j'ai pu découvrir ceux que je connaissais un peu, mes confrères, à terre, morts. Certains étaient en vie, et c'était évidemment, pour nous tous à Première Ligne, et pour moi aussi, un événement et un moment traumatisant, triste, dur. Évidemment, on était chanceux parce qu'on était en vie, mais évidemment, c'était douloureux parce que c'était extrêmement grave. Et cet événement-là ne s'est pas produit sur une ligne de front où j'ai eu l'habitude d'aller, en Irak par exemple, ou ailleurs. Ne s'est pas produit loin de chez moi, mais s'est produit dans mon environnement personnel et professionnel, dans un lieu que je pensais sécurisé, et contre des personnes qui faisaient le même métier que moi. Et ils sont morts devant moi. Cet événement-là est... ma carrière, ce que j'ai pu faire avant, m'ont définitivement convaincu d'organiser et de créer une grande plateforme internationale et de mettre en place un réseau ambitieux, mais voilà, mondial, pour poursuivre les enquêtes des autres et les publier. Avec un objectif absolu, c'est faire en sorte que l'histoire survive, faire en sorte que les populations soient informées.
Quand j'ai entendu ça à midi, j'ai pleuré. C'est une des choses les plus affreuses que d'attaquer la presse. La presse, c'est nous, c'est la démocratie, c'est le peuple. Si on attaque la presse, c'est nous. Il ne faut pas les laisser faire, qui que ce soit. C'est pour ça qu'on est tous là ce soir, avec nos petites voix, nos petits bras. Mais il faut montrer qu'on est là et qu'on ne se laissera pas faire.
Après ces événements de 2015, j'ai su tout de suite qu'il fallait que je prenne le temps et que je trouve du temps, ce qui est rarement facile dans un métier de journaliste où on voyage beaucoup, où on enchaîne les sujets. Et je savais qu'il fallait vraiment trouver du temps de concentration et aussi les moyens d'avoir ce temps-là. Et donc j'ai candidaté pour obtenir une bourse aux États-Unis. Il y a 3 universités américaines qui, depuis un demi-siècle, organisent des sortes de résidences pour journalistes. C'est Harvard, Stanford et Michigan. Et on peut y passer 1 an. En fait, on présente un dossier et si on est pris, on vous invite pendant 1 an, vous et votre famille, à passer 1 an en résidence pour développer le sujet, le projet de vos rêves. Et moi, le projet de mes rêves, c'était de créer Forbidden Stories, une organisation collaborative mondiale de journalistes pour terminer les enquêtes des autres et les publier. Et j'ai passé donc 1 an dans l'État du Michigan, la même année où Trump a été élu, donc c'était assez exceptionnel et franchement génial d'être là au moment où le pays basculait totalement dans l'inconnu et de voir mes confrères américains être aussi finalement surpris que moi. Et puis j'ai travaillé là-bas et j'ai fait des rencontres incroyables, notamment une avec un journaliste allemand qui lui aussi avait été pris pour cette même bourse-là, la même année, dans la même promotion que moi, et qui s'appelle Bastian Obermeier. Et ce journaliste-là allemand, il a quelque chose de très particulier, c'est qu'un jour il a reçu 13,5 millions de documents et qui a raconté l'évasion fiscale à l'échelle mondiale, et c'est lui qui a révélé les Panama Papers et puis les Paradise Papers. Et donc Bastian avait une connaissance du journalisme collaboratif, c'est pas si facile que ça en fait de partager l'information, et ce que je voulais, c'était mettre en place un système de partage d'information pour que les journalistes collaborent les uns avec les autres dans un but ultime, poursuivre les enquêtes et les publier, parce qu'une personne a été assassinée au départ. Et puis cette même année aussi, j'ai beaucoup échangé avec Édouard Perrin, qui avait aussi fait la même bourse que moi l'année d'avant et qui lui a révélé LuxLeaks et qui lui a aussi l'expérience du collaboratif. Avec Édouard et avec Bastian, on a passé beaucoup de temps à gamberger et à imaginer ce que pouvait être cette plateforme pour au final lui donner naissance officiellement à la fin d'octobre 2017. Forbidden Stories, en français, ça veut dire enquête interdite. Donc nous, on s'intéresse à des enquêtes qui sont interdites. Interdites, ça veut dire qu'elles sont retrouvées à un moment donné face à la censure, parce que le journaliste a été assassiné, parce qu'il a été emprisonné, parce qu'il a l'impossibilité technique de publier cette information-là, ou parce qu'il a l'impossibilité éditoriale, politique, on va dire, parce que son pays, son gouvernement, le menace de prison s'il publie cette information-là. Nous, on s'intéresse à ces enquêtes qui sont interdites et qui, sans l'aide finalement de ce réseau-là, ne pourraient pas voir le jour. On ne fait pas ça dans une démarche corporatiste. Ce n'est pas un mécanisme de défense des journalistes les uns vis-à-vis des autres, mais c'est bien une mission journalistique dans le but d'informer le plus grand nombre, de servir l'intérêt général et de faire en sorte que les gens soient informés. Sans cette information-là, sur la corruption, sur l'environnement, sur tous les sujets importants, il n'y a pas vraiment de démocratie. Le 31 octobre 2017, on a organisé une conférence de presse pour annoncer la création de Forbidden Stories avec deux idées simples. La première, c'est si un journaliste meurt, travaillons à plusieurs pour poursuivre son travail et le publier massivement, et que cette information-là ne soit pas publiée seulement dans le pays en question où le journaliste a été tué, mais soit publiée dans toutes les capitales du monde et le plus largement, le plus massivement possible. L'objectif, c'est vraiment de publier ce qui devait rester caché et de lui donner un impact. Le deuxième objectif de Forbidden Stories, c'est de permettre à des journalistes, au moment même où ils enquêtent, de mettre de côté, de protéger les éléments de leur information. Si vous avez fait à 14h une interview qui est extrêmement sensible, qui peut vous coûter la vie demain parce que la personne que vous avez interviewée est extrêmement agacée. Ça peut être la personne qui dirige un réseau criminel, ça peut être un politique corrompu. En tout cas, si vous pensez que cette information-là vous met en danger, l'idée, c'est de protéger l'information. Et nous, Forbidden Stories, on propose à des journalistes qui sont en danger d'envoyer de manière sécurisée les éléments de leur enquête. Et si jamais il leur arrive quelque chose, à ce moment-là, on sera en mesure de poursuivre et de terminer l'enquête. Le 16 octobre dernier, en début d'après-midi, Daphné Caruana Galizia a été assassinée. Une bombe a sauté dans sa voiture. Elle est morte immédiatement. Elle était journaliste d'investigation et elle enquêtait sur la corruption à Malte et plus largement au sein de l'Union européenne, sur l'évasion fiscale du clan au pouvoir, sur le crime organisé, sur des faits extrêmement graves. Elle avait reçu de nombreuses menaces, elle avait reçu de nombreuses plaintes. Il y avait 46 procès contre elle au moment où elle est décédée. Elle était totalement harcelée de toutes parts. Quand on a appris la nouvelle, ça a été un choc absolu, parce qu'au cœur même de l'Europe, une voiture a sauté, une voiture avait été piégée, et c'est une journaliste qui était visée. Dès le lendemain de son assassinat, j'ai pu contacter Mathieu, son fils, l'un de ses fils, pour lui proposer notre aide, nous, Forbidden Stories, ce que l'on pouvait faire, et je lui ai proposé qu'on se rassemble et que l'on coordonne et que l'on poursuive le travail de sa mère. Et dès ce jour-là, on a mis en place un réseau de 45 journalistes dans le monde, 18 organisations de presse, pour travailler dans le secret pendant 6 mois et enquêter sur ce sur quoi enquêtait Daphné. On a publié ces informations-là à l'occasion des 6 mois du décès de Daphné. Donc le 16 avril dernier, on a publié toutes ces informations-là avec tous ses partenaires, et ces informations ont fait la une de nombreux journaux, du New York Times, du Monde, du Süddeutsche Zeitung, de Die Zeit. On a voulu une chose, c'est enquêter le plus loin possible. On a publié de nouvelles informations extrêmement embarrassantes pour les autorités maltaises concernant la vente de passeports maltais au sein de l'Union européenne, où pour 1 million d'euros, vous pouvez obtenir la citoyenneté européenne en passant par Malte. Et ensuite, blanchir de l'argent ou acheter des propriétés un peu partout dans l'Union européenne. Et on a aussi voulu donner un maximum d'écho à ces enquêtes-là en les publiant le même jour partout dans le monde, dans 18 grands journaux, aux États-Unis comme en Europe. Et voilà, et on voit aujourd'hui le résultat de ça, c'est que beaucoup plus de personnes ont entendu parler finalement du travail important que menait Daphné via Forbidden Stories que via le blog de Daphné, qui était un blog déjà extrêmement lu à Malte. Elle ne pouvait pas faire plus que ça, puisqu'il y avait 300 000 personnes qui étaient connectées sur son blog sur une île qui en compte 400 000. Mais nous, ce sont des millions de personnes qui ont du coup eu accès à cette information extrêmement importante sur, d'ailleurs, toute une série d'informations sur les autorités maltaises et sur ce qui se passe dans cette île au cœur de l'Union européenne. En fait, l'idée de terminer les enquêtes des autres n'est pas une idée nouvelle. Il y a eu, par exemple, en 1976, un projet qui s'appelait The Arizona Project, le projet Arizona, où, en fait, un journaliste, en 1976, qui s'appelait Don Bowles, travaillait à Phoenix, en Arizona. Et un matin, il prend sa voiture, il démarre sa voiture, et sa voiture explose. Quelques minutes après, les premiers secours arrivent. Il est sur le trottoir, il est à l'agonie, et il prononce trois mots. Il donne le nom de l'entrepreneur, il dit le mot corruption, et il donne le nom d'une autre personne. Et puis il meurt. Le lendemain, il y a une trentaine de journalistes d'un peu partout des États-Unis qui arrivent à Phoenix, en Arizona, et qui décident de travailler ensemble et de terminer le travail de Don Bowles et d'enquêter sur cet entrepreneur corrompu sur lequel il travaillait. Ça s'est appelé The Arizona Project. C'est la première grande collaboration journalistique que l'on connaisse dans l'histoire du journalisme. Et c'est une collaboration qui, moi, m'a extrêmement inspiré dans la création de Forbidden Stories. Aujourd'hui, on a des techniques numériques qui nous permettraient d'avancer plus vite, qui auraient permis aussi, peut-être, éventuellement à Don Bowles de protéger son information quelque part, et donc d'assurer la survie de l'information, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on a pris conscience de l'efficacité, de la force de frappe du journalisme collaboratif. Les Panama Papers, les LuxLeaks, les Paradise Papers, les Offshore Leaks ont montré que une publication issue d'un travail collaboratif où pendant des mois des journalistes ont travaillé ensemble, ben ça produisait une information plus précise, de qualité, vérifiée et avec un impact massif.
Daphne Caruana Galizia. Caruana Galizia. Killed when a bomb exploded.
Connected to the aggressive work she had done calling out corruption in Malta.
Malte vend sa nationalité pour 1 million d'euros à des super riches, en somme. C'est un sujet qui est très important parce qu'un passeport maltais, c'est en fait un passeport européen. Il donne accès aux 28 États membres de l'Union européenne. Or, Malte, ce que révèle le projet Daphné et nos enquêtes, c'est que Malte ne respecte pas les règles qui ont été fixées par la Commission européenne. C'est-à-dire que ces acheteurs de passeports aient résidé au moins un an sur l'île. On est par exemple allé au domicile d'acheteurs de passeports russes. Il y avait personne, ce sont juste des boîtes aux lettres. En fait, ces systèmes de vente de passeports sont utilisés par des personnes qui souhaitent se dissimuler, soit pour frauder le fisc, soit plus grave, pour blanchir de l'argent issu d'activités criminelles autres ou contourner des sanctions internationales.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Et nous retrouvons Grégoire Pouget, Jean-Marc Bourguignon, au sein de cette émission. C'est vous, messieurs, qui avez ouvert l'atelier des médias aujourd'hui avec vos bons conseils, les bons conseils de votre organisation. Nothing to hide, ça veut dire rien à cacher. C'est une organisation toute jeune. Les bons conseils de votre organisation aux journalistes qui se rendent en Russie. Russie, vous le rappelez dans une brochure que vous avez publiée récemment, 148e pays dans le classement, sur 180 dans le classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse. Et des conseils qui s'appliquent pour la Russie, mais qui s'appliquent aussi dans le monde entier. Vous donnez des conseils de logique pour les personnes qui voyagent ou même qui restent chez elles pour protéger leurs informations. Et ces personnes peuvent être des journalistes ou même des citoyens, des activistes, etc. Peut-être pour commencer, vous pourriez nous raconter comment est née l'aventure Nothing to Hide. On vous connaît tous les deux dans l'atelier des médias, vous êtes venus à plusieurs reprises pour des travaux ou des jobs que vous aviez auparavant. Grégoire.
Alors, Jean-Marc et moi, on s'est connus chez Reporters sans frontières. On a travaillé tous les deux pour cette organisation. Moi, je travaillais au bureau Nouveaux Médias et on travaillait beaucoup sur la technologie, comment la technologie peut aider le travail lié à l'information. Il se trouve qu'on a quitté cette organisation. Moi, j'ai fait ma vie, je suis allé travailler dans d'autres organisations. Et cependant, depuis un certain temps, on avait envie de lancer un projet parce que dans le monde des ONG classiques, qui est un monde qu'on connaît bien, qui est un monde d'où on vient, le problème, c'est que les ONG n'ont pas dans leur ADN une partie technologique. C'est-à-dire que quand on montait des projets liés à la techno, quand le projet s'arrête, après, il y avait pas de suivi. Nous, on s'est dit, c'est très dommage et on voudrait faire une organisation dans laquelle la technologie se ferait vraiment au cœur de nos projets.
Qu'est-ce que ça veut dire, la technologie, dans ce cadre-là? Parce qu'on l'a pas expliqué, Nothing to Hide, ça veut dire rien à cacher. Vous travaillez essentiellement avec des journalistes et vous êtes tous les deux des techniciens informatiques, donc vous y connaissez. Et l'idée, donc, c'est de permettre aux journalistes de se protéger, c'est ça, technologiquement. Voilà. Et en toute logique, juste l'autre idée, c'est que ça change tout le temps. Ça avance tout le temps, ça évolue tout le temps. Jean-Marc.
Oui, c'est ça. L'idée, c'est que, comme le disait Grégoire, on a travaillé auprès de journalistes dans différents pays. Du coup, on a quand même appris beaucoup de choses auprès d'eux, leur process de travail, comment est-ce qu'ils fonctionnent, quelles sont leurs lacunes, et on prend en compte que ce ne sont pas des techniciens, ce ne sont pas des développeurs informatiques, ce sont des journalistes avec peut-être un bagage numérique, mais qui est souvent assez... j'ai pas envie de dire bas niveau, mais d'utilisateurs en fait. Et donc nous, au sein de différentes structures, dont j'ai travaillé pour Reporters sans frontières, mais d'autres ONG, c'était d'amener justement la technique à leur niveau, d'adapter des process qui sont souvent très très techniques, les vulgariser pour qu'eux gagnent un petit peu en sécurité. Et du coup, il y avait quand même, auprès des ONG qui font un gros travail, il y avait toujours de ma part une frustration, c'est-à-dire qu'il y avait du retard. On sait très bien qu'en France, le numérique a du retard dans beaucoup de pays. Alors, je vous laisse imaginer dans des grosses ONG, dans des grosses institutions qui font un travail dans leur secteur, dans leur champ d'activité. Mais le numérique et encore plus la sécurité, c'était vraiment à la traîne. Et c'est compréhensible aussi, parce que c'est tellement large comme champ, que justement, ça faisait très longtemps que je disais, voilà, il faudrait faire quelque chose là-dessus. Et du coup, avec Grégoire, on l'a fait. Il y a eu un élément déclencheur de ma part, qui était un petit problème physique. Et là, je me suis dit, bon, ok, stop, là, il faut que je fasse le truc. Ça fait un petit électrochoc. Mais c'est vraiment, du coup, on s'est vraiment axé là-dessus pour développer ça avec, on parle de mandat, quand on en a un avec un mandat beaucoup plus large. Parce qu'il y a du journalisme professionnel, il y a du journalisme citoyen qui est devenu. Pour ma part, je pense, c'est un peu vulgaire en France, j'ai l'impression, journaliste citoyen, alors que c'est très drôle, mais en Afrique, en Asie, on voit que ça explose, plus que jamais. Et qui sont, alors, les journalistes citoyens ou les blogueurs citoyens ou les net activistes, peu importe, aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus nulle part, et de moins en moins. Et du coup, ça aussi, ça a été un élément déclencheur pour moi, le fait de se dire, ben voilà, je ne veux pas aider que des gens qui ont une carte professionnelle, je veux aussi aider des gens qui produisent de l'information, et voilà.
Et donc, comment est-ce que vous pouvez aider, agir pour accompagner donc soit des individus, soit des groupes médias dans leur approche et dans leur utilisation des nouvelles technologies, Grégoire ?
Ce qu'on fait, nous, c'est notre mandat, c'est protéger l'information. Et alors, comment on fait ça ? On fait ça de manière très simple. On rend des choses compliquées, on les rend très simples. C'est-à-dire que tous les outils qui permettent de protéger ses communications, ses appels téléphoniques, de s'assurer que le contenu des emails ne puisse pas être lu, de protéger le contenu des données, des serveurs, de faire en sorte qu'un site qui est attaqué puisse rester en ligne, et ben tout ça, c'est des choses qui sont qui sont d'une complexité plus ou moins relative et qui ne sont pas à la portée des journalistes, parce que c'est pas le travail des journalistes. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on apporte un soutien technique, on explique comment utiliser ces outils-là, on fait beaucoup de formations, beaucoup de vulgarisation, et ce qu'on fait également, c'est qu'on prend des outils qui existent et on les adapte et on les rend simples à l'usage pour des journalistes qui ne sont pas des professionnels de l'informatique.
Exemple.
Par exemple, on a été faire une mission pour aider une activiste érythréenne qui travaille depuis très longtemps sur les migrants, etc., qui récupère donc des données sensibles.
Elle travaille sur les migrants, hein, tu as dit, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Enfin, sur les migrants, sur les érythréens qui sortent du pays, etc. Il y a des histoires de kidnapping et de rançon. Enfin, c'est très, très compliqué. C'est pas très gai. Et voilà, comme souvent, alors... Vraiment, c'est une activiste qui travaille toute seule, c'est souvent le cas, et elle est complètement la tête dans le guidon, elle voit pas le lendemain ce qu'elle fait, etc. Elle se retrouve avec une masse de données, et qu'est-ce qu'elle fait de tout ça ? C'est-à-dire que là, c'était concrètement, quand on est intervenu, c'était en vrac un peu partout, c'était sur des disques durs, sur des clés USB, etc. Et donc c'est une ONG pro-victimis qui nous a demandé d'intervenir pour dire, voilà, cette dame-là, c'est une activiste, elle fait du boulot, elle a des données, essayez de voir avec elle. Donc on a été sur place, on a observé comment elle travaillait, quel était son processus, et on lui a installé dans son processus, pour pas que ça ne la dérange, parce qu'il faut pas que ce soit compliqué, tout simplement un cloud privé chez elle, ça veut dire c'est
un nuage,
voilà, c'est en fait
un serveur informatique,
un serveur de fichiers tout simplement, où maintenant quand elle met simplement une clé USB sur son ordinateur, elle fait un glisser-déposer sur un espèce de répertoire, et en fait ce répertoire, c'est pas sur son disque dur, mais c'est tout simplement un serveur de fichiers qui chiffre automatiquement, et quelque part ailleurs sur l'internet il y a un serveur qui va récupérer les données de son serveur et qui va les mettre à l'abri une seconde fois. tout est chiffré. C'est-à-dire que, en l'occurrence, c'est nous, nous récupérons les données, mais nous n'y avons pas accès parce que nous n'avons pas la clé de chiffrement. Seule elle l'a. Voilà, donc ça c'est concrètement, c'est le genre de choses qu'on fait. Et pour l'utilisateur final, c'est-à-dire cette activiste érythréenne, que je peux nommer parce que c'est Meron Estefanos, bah elle, techniquement c'est très simple. Elle fait fichier, glisser, déposer, c'est tout.
Et sinon ce qu'on fait également, on fait beaucoup de soutien média auprès de petits, c'est pas du tout péjoratif, mais de petits médias indépendants. Là, on va aller en Turquie pour aider un média, par exemple. Et le problème de ces médias-là, c'est qu'ils n'ont pas les capacités financières d'avoir une équipe technique. Et alors ça, c'est un classique chez tous les petits médias indépendants. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on y va, on les aide à s'assurer que leurs données soient à l'abri. Donc c'est leur monter un système de sauvegarde, c'est s'assurer que leur site ne soit pas verrouillé, etc. On fait ça pendant une semaine et après, on reste en contact avec eux régulièrement. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on va sur place, on va les aider et on leur rend le travail plus facile.
De ce que je comprends de vos explications, il y a deux approches possibles. Il y a une approche en fait individuelle où vous allez accompagner quelqu'un, lui expliquer comment utiliser tel outil ou même organiser pour lui donc son utilisation quotidienne en fonction de ses besoins. Et il y a une approche un peu plus globale ou un peu plus générale qui est celle des médias sur leur architecture de présence en ligne, etc. C'est ça?
C'est ça. En fait, on fait également beaucoup de formations. Et alors ça, on est extrêmement heureux parce que on a lancé l'organisation il y a un peu plus d'un an et on était assez frustrés dans nos précédentes expériences parce que on allait voir des médias, on leur disait la sécurité numérique c'est vraiment important pour le métier de journaliste, pour les gens qui travaillent dans la formation. Il faut vraiment former les gens et les professionnels et les futurs professionnels. Et ce qu'on a réussi à faire au cours de l'année passée, c'est qu'on a réussi à aller voir toutes les écoles de journalisme. Alors tout, on travaille pas avec toutes, mais à inscrire dans le programme de ces écoles, en dur, dans le marbre, le fait qu'il y ait des initiations à la sécurité numérique de 2 à 3 jours quand même.
Et c'est vous qui les assurez à chaque fois?
Alors, oui, la plupart du temps. Sinon, on travaille aussi avec des membres de Nothing to Hide, puisqu'on est une association. Oui. Des gens peuvent donner des formations ou des intervenants externes qu'on connaît depuis très très longtemps.
Merci Grégoire, merci Jean-Marc. Juste info pratique pour les personnes qui souhaitent en savoir plus ou qui souhaitent retrouver la brochure dont vous avez parlé au début de l'émission. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, une brochure qui s'adresse aux journalistes qui vont en Russie, donc sur ce qu'ils doivent faire avant de partir avec leurs outils numériques, sur place et en revenant. Où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations?
On peut trouver ça sur notre site, c'est nothingtohide.org.
Alors, donc nothing, c'est comme en anglais, N-O-T-H-I-N-G. Tout, vous l'avez écrit deux, et hide, H-I-D-E, ouais.
.org, et évidemment c'est un nom ironique pour l'organisation. Et nothing.org/coupe-du-monde.
Oui. Ça va être compliqué. On vous trouve également en faisant une recherche Google ou sur les réseaux sociaux où vous allez partager.
Une recherche dans un moteur de recherche, parce qu'on a un fort engagement sur les logiciels libres et contre les solutions. Enfin,
donc,
pas
Google,
contre
DuckDuckGo, Quant, etc. Un moteur de recherche, vous avez bien raison. Merci beaucoup, messieurs. Merci de votre passage.
Merci, Yann. Merci.
C'était La technologie au service des droits humains, une émission de l'Atelier des médias signée Mathilde Saliou, Simon Decreuse et Ziad Malouf. En coulisses, Léo Caravagna et Camille Deloche. Toutes nos excuses pour le fait que nos invités du jour n'étaient que des hommes. C'est dû au hasard de nos rencontres et au fait qu'un des sujets initialement prévus dans l'émission a été reporté. Salut à toutes et à tous.